Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, chers fidèles, notre Seigneur commence à nous présenter son royaume en insistant sur son aspect mystérieux. Mon royaume n'est pas de ce monde. Qu'est-ce à dire? Cela ne veut pas dire que le royaume de notre Seigneur ne s'applique pas sur cette terre, sur ce monde, puisque juste avant son ascension, notre Seigneur a bien dit « Tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. » Mais ce que notre Seigneur veut dire, c'est que son royaume ne vient pas de ce monde. Son origine n'est pas terrestre, mais céleste. C'est un royaume tout mystérieux, un royaume qui s'enracine sur cette terre, mais qui ne s'épanouit vraiment qu'au ciel, dans le bonheur éternel. C'est donc une doctrine qui a sa part de mystère, et pour nous aider à y pénétrer, à la goûter, eh bien, l'Église a composé une magnifique préface, celle que le prêtre va chanter tout à l'heure, justement pour décrire ce royaume du Christ-Roi. Je vous la lis, elle est vraiment très belle. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire, que toujours et partout nous vous rendions grâce, Seigneur, Père Saint, Dieu Tout-Puissant et Éternel. Vous qui avez oint d'une onction d'allégresse votre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, le prêtre éternel et le roi de l'univers, pour que s'immolant lui-même sur l'autel de la croix, victime sans tache et pacifique, il accomplit le mystère sacré de la rédemption des hommes, et que soumettant toutes les créatures à son empire, il remit à votre infinie majesté le royaume éternel et universel, royaume de vérité et de vie, royaume de sainteté et de grâce, royaume de justice, d'amour et de paix. Chaque caractère de ce royaume de notre Seigneur mériterait certainement un sermon, mais nous nous arrêterons seulement sur deux d'entre eux, en fait, sur la fin de cette belle préface, qui décrit le royaume de notre Seigneur comme un règne d'amour et un règne de paix. Et tout d'abord, le royaume de notre Seigneur, du Christ-Roi, est un royaume qui vient de l'amour de Dieu et qui nous mène à l'amour de Dieu, de notre Seigneur. Vous le savez bien, chers fidèles, le bon Dieu est infiniment heureux au ciel, et cela de toute éternité. Il n'avait absolument, mais absolument pas besoin de nous pour être plus heureux, puisque son bonheur est infini. Toutes les créatures prises ensemble ne lui rajoutent absolument rien, puisqu'on ne rajoute rien à l'infini. Alors c'est bien par pure bonté pour nous, d'un amour tout à fait gratuit, qu'il a créé le monde, et notamment l'homme, et qu'il nous a appelés au bonheur éternel. Et pour nous appeler à ce bonheur éternel, eh bien, il nous a envoyé son Fils unique mourir sur la croix, racheter nos âmes, et fonder ce royaume qui est l'Église, et dans lequel est distribué le prix de son sang, dans lequel est distribuée cette grâce qui nous sauve. C'est donc par pur amour pour nous, bien que notre Seigneur a créé ce royaume. Et à ce sujet, Saint François de Sales, nous fêtons son quatrième centenaire de sa mort, bien Saint François de Sales, dans son traité de l'amour de Dieu, a des très belles paroles. D'ailleurs, je vous invite à lire ce traité, même si le mot traité paraît un peu impressionnant, en fait, c'est pas si gros que ça, et c'est tout à fait possible de le lire, c'est un très bel écrit. Alors voici ce que dit Saint François de Sales. Il y a correspondance incomparable entre Dieu et l'homme, non que Dieu puisse recevoir aucune perfection de l'homme, mais parce que, de même que l'homme ne peut être perfectionné que par la divine bonté, de même, la divine bonté ne peut si bien exercer sa perfection hors de soi qu'à l'endroit de notre humanité. L'un a grand besoin et grande capacité de recevoir du bien, et l'autre, grande abondance et grande inclination pour en donner. Rien n'est si à propos pour l'indigence qu'une généreuse abondance, et rien n'est si agréable à une généreuse abondance qu'une nécessiteuse indigence. C'est donc une douce et désirable rencontre que celui de l'abondance et de l'indigence. Et on ne saurait presque dire qui a plus de joie, ou le bien abondant à se répandre et communiquer, ou le bien défaillant et indigent à recevoir et tirer, si notre Seigneur n'avait dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ainsi donc, le royaume de notre Seigneur est né de l'amour de notre Seigneur pour nous, mais aussi il nous mène à l'amour de notre Seigneur. Il faut y correspondre. C'est la part qui nous demande notre coopération personnelle. Puisque vous savez bien que tout le sens de notre vie chrétienne, c'est de ressembler, c'est d'imiter notre Seigneur, c'est de nous unir à lui, ici-bas, pour lui être unis éternellement dans le ciel. Et puisque notre Seigneur est charité, puisque Dieu est charité, comme le dit Saint Jean, l'apôtre, eh bien, le plus grand commandement, le premier des commandements, c'est celui d'amour de Dieu et du prochain. Et non seulement c'est le premier parmi tous les commandements, mais c'est le résumé de tous les autres. À lui seul, il suffit s'il est bien entendu. Il ramène à lui tous les commandements de Dieu et de l'Église. Ainsi, nous serons jugés sur l'amour. Quand notre Seigneur décrit le jugement dernier, le seul critère qu'il utilise, et notre Seigneur sait bien de quoi il parle, parce que c'est lui qui sera le juge, le seul critère qu'il utilise, c'est l'amour du prochain. Donc les brebis, ce sont qui sont placés à sa droite, c'est ceux qui ont aimé leur prochain, qui l'ont rendu service. Et les boucs, bien, ce sont ceux qui iront au feu éternel, ce sont ceux qui n'ont pas rendu service à leur prochain, qui n'ont pas aimé leur prochain et par conséquent, qui n'ont pas aimé notre Seigneur. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais passons au second point, qui est d'ailleurs un corollaire, une conséquence du premier. Le royaume de notre Seigneur n'est pas seulement un royaume d'amour, c'est aussi un royaume de paix, c'est un royaume d'unité. Comme le dit très bien Saint Augustin, comment peut-il avoir la charité, celui qui divise l'unité? Mais remarquons d'abord que la charité, eh bien, si elle s'étend à tous les hommes, elle s'étend d'une manière ordonnée, pas tout à fait de la même manière pour tous. Envers ceux qui n'ont pas la foi, ceux qui ne sont pas dans le royaume de notre Seigneur, ceux qui ne sont pas dans l'Église, la charité nous commande bien sûr de les aimer. Et les aimer, cela veut dire prier pour eux, tout d'abord. Ensuite, si possible, bien les ramener à notre Seigneur, par notre exemple d'abord, et puis ensuite éventuellement par notre parole. Et puis enfin, leur rendre tous les services corporels qui peuvent leur être utiles. Mais cette charité ne nous demande absolument pas de leur être unis. Comme le dit très bien Saint Paul, c'est dans la seconde épître aux Corinthiens, « Ne vous attachez pas à un même joug avec les infidèles, car quelle société y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'a de commun la lumière avec les ténèbres, quel accord y a-t-il entre le Christ et Bélial, ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ?» Donc charité, bien sûr, mais pas union. En revanche, les fidèles entre eux, ceux qui sont dans l'Église, les traditionalistes, eh bien, vous devez être unis entre vous, garder la paix entre vous. Comme le dit Saint Paul, c'est dans une autre épître aux Éphésiens. « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Et c'est un commandement, c'est obligatoire. Saint Augustin, qui est l'un des plus grands docteurs de l'Église, le premier parmi les pères de l'Église, en parle, pour ainsi dire, à chaque page dans son œuvre immense. Voici trois citations tirées de diverses œuvres. Donc, des citations de Saint Augustin. « L'esprit humain, c'est-à-dire notre âme, ne vivifie jamais les membres s'ils ne sont unis au corps. » Bien sûr, si un membre est coupé de notre corps, ce membre meurt. Et de même, l'Esprit Saint ne vivifie jamais les membres de l'Église s'ils ne sont unis dans la paix. C'est clair. Il dit ailleurs, « Malheur aux ennemis de l'unité, à ceux qui se forment des partis parmi les hommes. » Et puis ailleurs, en commentant donc un verset du psaume 119e, « J'étais pacifique avec ceux qui haïssent la paix », Saint Augustin dit, « Qui donc est la paix ? C'est celui qui brise l'unité. » Et puis il continue en parlant de rigoristes, donc qui s'étaient formés en secte, donc les donatistes, qui ravageaient l'Afrique à cette époque. C'est parce qu'ils étaient justes qu'ils ont fait schisme, et afin de n'être point mêlés avec les injustes. Mais l'Église catholique s'écrie qu'il ne faut point rompre l'unité, ni faire de schisme dans l'Église du Christ, que Dieu jugera plus tard les bons et les méchants, et que s'il est impossible aujourd'hui de séparer les bons et les méchants, il faut tolérer cela pour un temps. Quiconque dès lors supporte un moment les méchants arrivera au repos éternel, ainsi dit l'Église catholique. Eh bien, chers fidèles, nous nous disons traditionnalistes, c'est bien, c'est excellent, mais encore faut-il garder toute la tradition intégralement et ne pas choisir entre ce qui nous plaît et ce qui nous plairait moins. Savez-vous comment on dit « celui qui choisit » en grec ? Cela se dit « aéretikos ». Et c'est exactement le même mot que pour désigner un hérétique. L'hérétique, c'est celui qui choisit. Alors, ne rejetons pas cette doctrine sur la nécessité de garder l'unité et la paix entre nous, sous couvert de mieux garder la tradition. Ne soyons pas, entre guillemets, hérétiques afin d'être meilleurs traditionalistes. Ce serait un comble. Alors, deux applications, si vous voulez bien. La première, nous la verrons très rapidement, vous la connaissez bien. C'est la nécessité de nous pardonner les uns les autres nos offenses, nos petites et nos grandes misères. Notre Seigneur y revient sans arrêt, vous connaissez bien cette doctrine. Alors, puisque le temps passe rapidement, je n'y insisterai pas. Mais j'insisterai sur une autre application qui lui ressemble, qui est tout aussi importante, mais de laquelle nous ne parlons peut-être pas suffisamment. C'est le devoir de supporter les opinions divergentes de notre prochain en matière libre. Qu'est-ce que c'est que la matière libre ? Une matière libre, c'est celle qui n'est pas obligatoire. Et quelle est une matière obligatoire ? C'est celle qui est de foi, et rien de plus. Et votre foi, où vous la connaissez-vous ? Où la voyez-vous ? Eh bien, dans votre catéchisme et pas ailleurs. Ainsi, bien sûr, si quelqu'un vous dit « il n'y a pas un seul Dieu en trois personnes », alors bien sûr, séparez-vous de lui. Il n'est pas chrétien, il n'est pas catholique. Si un simple fidèle, si un prêtre, si un évêque, si même le pape vous dit « toutes les religions sont bonnes », alors oui, gardez-vous de lui. C'est tout le sens du combat de Mgr Lefebvre. Et c'était sur des questions de foi. Mais autrement, sur des questions qui ne sont pas de foi, qui n'ont jamais été définies par l'Église, ou sur ce qu'il vaut mieux faire ou ne pas faire, et qui ne touche pas directement et d'une manière évidente à la morale de l'Église, alors vous devez garder la paix avec votre prochain, même s'il ne pense pas comme vous. L'unité et la paix sont les commandements, c'est obligatoire. Que tous aient exactement les mêmes opinions sur les plus petites choses, cela n'est pas obligatoire. Vous pouvez bien sûr en discuter, mais avec charité, mais en gardant la paix, mais en gardant l'unité. Vous savez, quand nous comparaîtrons devant notre Seigneur, devant le souverain roi, devant le souverain juge, notre Seigneur ne nous demandera pas « As-tu réussi à convaincre le monde entier et tous les hommes de toutes tes petites opinions ?» Non, cela notre Seigneur ne nous le demandera pas. En revanche, notre Seigneur nous demandera « As-tu gardé l'unité ? As-tu gardé la paix avec tes frères, avec ton prochain ?» Cela, notre Seigneur va nous le demander. Puissions-nous, chers fidèles, à vous pouvoir bien répondre en ce jour-là, parce qu'après, il sera trop tard. Suivons plutôt l'exemple de saint Paul. Saint Paul, dans une épître donc aux Corinthiens, encore une fois, un passage très intéressant, il n'est pas lu dans la liturgie, parce que cela dure sur trois chapitres tout de même. Alors, les Corinthiens étaient très divisés entre eux, sur une multitude de questions, ils formaient des petites coteries, des petites divisions. Alors, saint Paul écrit toute une épître pour les reprendre, en fait. Et notamment, ils étaient divisés sur cette question. Peut-on manger des viandes consacrés aux idoles. Parce qu'à cette époque-là, la plupart des viandes qui se trouvaient sur le marché avaient été consacrées auparavant aux idoles. Bon, un peu comme aujourd'hui, on trouve sur le marché des viandes halal ou kasher ou je ne sais quoi. Donc c'était un peu la même chose, avec des petites différences. Alors saint Paul va résoudre cette question, d'ailleurs ça lui est très facile. Il dit, pour nous, nous savons que les idoles ne sont rien. En conséquence, vous pouvez manger de ces viandes consacrées aux idoles, puisque les idoles ne sont rien. Alors que va dire saint Paul ensuite? Quelle va être son application pratique? Sans doute, on se dit, saint Paul va dire, eh bien, que ceux qui ne pensent pas comme je viens de dire, bon, fassent comme je viens de dire. Après tout, saint Paul est l'apôtre des nations, l'apôtre par excellence. Il jouissait du charisme personnel de l'infaillibilité. Il n'y avait pas de plus grand prédicateur que lui. Alors s'il y a bien un homme au monde qui pouvait dire « faites comme je vous dis », c'était bien saint Paul. Je crois bien que vous ne rencontrez pas bien souvent des gens qui ont les charismes de saint Paul dans la rue aujourd'hui. Mais que va dire saint Paul? Il va continuer. Bon, je lis, c'est un petit peu long, écoutez, mais c'est très intéressant. « Toutefois, prenez garde que cette liberté dont vous jouissez, donc la liberté de manger ces viandes, ne devienne une occasion de chute pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui es un homme éclairé, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience à lui qui est faible, c'est-à-dire à celui qui pense que c'est un péché de manger ces viandes, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-elle pas à manger des viandes immolées aux idoles, en pensant que c'est une faute, et par conséquent en commettant une faute? Et ainsi ce père, le faible, par ta science, ce frère pour lequel le Christ est mort, en péchant de la sorte contre vos frères et en violentant leur conscience encore faible, vous péchez contre le Christ. C'est pourquoi, si un aliment est une occasion de chute pour mon frère, je me passerai éternellement de viande, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Et plus loin, saint Paul précise, « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, donc l'ancienne loi, comme j'ai fait comme si j'étais sous la loi, quoique je ne sois pas assujetti à la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Je me suis fait faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin de les sauver tous. » Voilà un grand exemple, chers fidèles. Alors en conclusion, jetons un regard sur les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens convertissaient les païens par leur exemple. Les païens disaient, en les regardant agir, « Voyez comme ils s'aiment !» Et en voyant cela, les païens se convertissaient en masse dans l'Église et rentraient dans l'Église, dans le royaume de notre Seigneur. Alors, je pose cette question, est-ce qu'aujourd'hui, nos contemporains, en nous voyant, en voyant les traditionnalistes, vont s'écrier spontanément « Voyez comme ils s'aiment !» C'est une question qui se pose. Je ne dis pas « Faites l'examen de conscience de votre voisin. » Non, mais il faut se dire soi-même « Moi, est-ce que c'est l'exemple que je donne autour de moi ?» Alors, vous serez interrogé au jugement dernier, non sur ce que fait votre prochain, mais sur ce que vous faites vous-même. Bien demandons à Notre-Dame, Notre-Dame de la Paix, cette grâce de comprendre cet enseignement, de l'importance pour nous de garder l'amour et la paix pour être vraiment dans le royaume de notre Seigneur, ici-bas, puis surtout d'y parvenir au ciel dans le bonheur éternel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.